Éric Bourguignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion taux et crédit chez Swiss Life Asset Manager. On va parler avec vous donc de ces marchés hein, obligataires, avec, on pourrait le dire, toutes les semaines de peut-être nouvelles versions, de nouveaux scénarios qui se dessinent. Si on commence par la Banque Centrale Européenne, on a pu lire qu'elle avait déjà œuvré dans son programme de rachat d'actifs. Ça a eu d'ores et déjà donc un impact sur ces marchés.
Alors, il y avait déjà eu un impact avant qu'elle n'agisse. Ça, c'est tout à fait évident, puisque les taux avaient déjà beaucoup baissé. Tout au long de l'année dernière et en début d'année, les spreads de crédit s'étaient déjà beaucoup réduits. Donc, elle avait déjà agi, à la limite, sans acheter un centime de papier, ce qui est assez remarquable. Alors, depuis qu'elle a agi le 9 mars, on a assisté à une poursuite de mouvement de détente des taux en zone euro, détente généralisée. Mais, phénomène assez intéressant, on observe quand même un début d'écartement des spreads sur les pays périphériques de la zone euro. Ce qui fait que les principaux bénéficiaires à ce stade du quantitative easing, depuis qu'il a été enclenché, c'est l'Allemagne et accessoirement la France.
Oui, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, c'est peut-être pas les deux pays qu'on avait le plus
Tout à
besoin.
fait.
Donc ça veut dire qu'il y a une vraie distorsion, en tout cas, de ces actifs.
Ah bah oui, aujourd'hui il n'y a plus de marché taux d'intérêt en zone euro, soyons clairs. Aujourd'hui les marchés sont complètement sous la main de la Banque Centrale Européenne qui effectue effectivement une distorsion considérable des taux d'intérêt, des spreads de crédit et qui provoque des flux d'épargne tout à fait impressionnants entre les différentes classes d'actifs.
Ça veut dire pour l'investisseur, clairement, on sait qu'on ne joue pas contre les banques centrales, hein, ça c'est du classique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on accompagne le mouvement, qu'est-ce qu'on fait sur ces marchés-là, puisque ce n'est pas terminé?
Oui, les investisseurs dans un monde où l'argent brûle les doigts, puisqu'on a même des taux négatifs sur certains placements jusqu'à des durées assez lointaines d'ailleurs, les investisseurs, ils n'ont d'autres possibilités que de rallonger un petit peu leur portefeuille, que de prendre un peu plus de risques pour essayer de grappiller quelques points de base supplémentaires de performance de façon assez mécanique.
On a une idée de jusqu'à quand ça va continuer. C'est la grande question sur ces marchés.
Quand on constate qu'aujourd'hui la BCE n'a dépensé que 60 à 70 milliards d'euros par rapport à un programme qui comporte 1 140 milliards d'euros de dépenses, on peut imaginer que le processus est loin d'être parvenu à son terme. Donc on aura probablement une courbe des taux qui s'aplatit encore davantage, des taux qui s'enfoncent encore plus en territoire négatif, de façon là aussi tout à fait mécanique en raison de ces achats de la Banque Centrale Européenne.
Alors, on pouvait entendre que, historiquement, on n'avait jamais connu une telle période, hein, d'aller jusqu'à ces niveaux-là. Quels sont les risques qu'il faut tout de même envisager quand on en arrive à une telle situation de taux d'intérêt négatif?
Moi, ça me semble une situation relativement aberrante. Un taux négatif, ça n'a pas de sens d'un point de vue théorique, ça n'a jamais existé dans l'histoire économique à ma connaissance jusqu'à une époque très récente. Donc, il faut quand même s'interroger sur ce phénomène tout à fait sans précédent. Les problèmes, parmi tant d'autres que ça peut poser, c'est que le taux d'intérêt, c'est un thermomètre. C'est lui qui oriente l'épargne, qui mesure le risque des emprunteurs. À partir du moment où ce thermomètre est cassé, on voit bien qu'il y a un désarroi profond des investisseurs et même des emprunteurs sur les marchés de taux d'intérêt qui n'ont plus du tout cette notion de marché, justement, qui vise à allouer l'épargne de façon la plus efficiente possible.
Donc ça aura des conséquences sur les épargnants, toute l'économie finalement financière.
Ça aura forcément des conséquences. On ne les connaît pas vraiment aujourd'hui, puisqu'on est tout à fait dans une période expérimentale. Encore une fois, on n'a jamais vécu ça. Donc là, la Banque Centrale Européenne prend, à mon avis, de grands risques, peut-être pour début tout à fait louables, mais les conséquences de cette politique seront probablement assez importantes et pas forcément bénéfiques pour l'économie et les marchés financiers dans les années qui viennent.
Quand on entend cette notion de stagnation séculaire, hein, pour dire que nos pays développés connaîtront une croissance faible pendant de longues années, alors ce qu'a connu le Japon, mais il y a quelques années, on ne voulait pas en parler en Europe. On disait l'Europe n'est pas le Japon. Ce côté stagnation séculaire, est-ce que ça parle quand on voit ce qu'il y a sur les taux, justement, ce que nous disent les taux d'intérêt aujourd'hui?
Oui, c'est un thème qui est un peu à la mode, qui n'a pas de sens à mes yeux. On sait très bien qu'il y a des cycles d'innovation, par exemple, qui peuvent régénérer des taux de croissance très importants. Il y a une quinzaine d'années, on pensait avoir à quoi sert une croissance éternelle, à un nouveau paradigme de l'économie mondiale. Donc tout ça n'est pas très sérieux, personne n'en sait rien à la vérité. Donc je ne crois pas du tout à cette théorie.
Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, si on y s'y arrête un instant, là on a un débat permanent, on pourrait dire, on le voit même donc au sein de la Fed sur remonter ou non les taux en 2015. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair ou pas?
Alors, je crois qu'il faut distinguer les problèmes conjoncturels de court terme. Et là, de ce point de vue-là, les derniers chiffres qui ont été publiés aux États-Unis ne sont pas très bons. Le chômage cesse de s'améliorer, le taux de chômage de se réduire, les créations d'emplois ralentissent, les commandes à l'industrie faiblissent. Bref, il y a tout un tas d'indicateurs qui vont dans le même sens, et c'est celui du ralentissement. Maintenant, l'analyse de ces chiffres n'est pas très claire. On pense que c'est relativement lié aux effets climatiques, donc tout à fait provisoire. La vérité, c'est que la politique monétaire américaine reste extrêmement agressive, tout à fait atypique, et le moment est venu de normaliser cette politique. Et je pense que c'est le raisonnement de la Fed. Je pense qu'elle remontera ses taux d'intérêt courant de l'été, peut-être même en juin, tout simplement parce que ces taux aujourd'hui sont beaucoup trop bas. Ils apportent un stimulant dont l'économie américaine n'a plus besoin parce qu'elle repart de façon relativement endogène.
Donc ce débat entre les membres de la Fed est tout à fait pertinent sur cette sortie quelque part de cette politique monétaire.
Je pense qu'ils sont tous convaincus que les taux actuels ne sont pas normaux, là-bas également. Et le problème, c'est est-ce qu'on fera ça en juin, en septembre. Enfin, ça me paraît tout à fait de ce contour. La vérité, c'est qu'ils vont devoir sortir de cette politique de stimulation de l'activité économique tout à fait excessive et dont n'a plus besoin l'Amérique.
On dirait qu'au plan mondial, toutes les banques centrales sont en train de mettre leur stratégie en place. On peut penser à la banque chinoise qui est elle aussi en train de faire ce quantitative easing à sa manière. On a vu la banque du Japon. Est-ce qu'il y a une coordination selon vous ou est-ce que finalement il n'y a pas tant de coordination que ça?
Non, il n'y a pas de coordination, je ne pense pas. Il y a un problème commun, c'est que le monde souffre d'un excès de dette. Donc quand les gens ont trop de dettes, ils n'empruntent plus. Donc les banques centrales cherchent justement à pallier cette insuffisance du crédit en allant elles-mêmes financer tout un tas de projets ou tout un tas d'États. Et ça, c'est la politique commune. Maintenant, les banques centrales poursuivent parfois des objectifs différents. Elles sont plutôt en concurrence et quand l'une agit fortement, ça va être une tendance à l'accompagner pour ne pas perdre de terrain par rapport à la politique qu'elle mène.
Le mot de la fin sur l'allocation d'actifs telle qu'elle se dessine sur les prochains mois, pour vous, quelles seraient les principales pistes?
Il est clair qu'aujourd'hui, les marchés de taux d'intérêt perdent beaucoup de leur attrait, à l'exception peut-être du marché du high yield, qui a encore des rémunérations assez sympathiques, et puis peut-être la dette corporate émergente, qui aussi a des spreads que je pense acceptables. Il est clair que pour les marchés actions, à moyen terme, ce quantitative easing est une machine infernale à faire monter les cours, mais est-ce que c'est pour des bonnes raisons?
C'est effectivement, on verra ça dans les prochains mois sur ce sujet. Merci Eric Bourguignon.
Merci.